histoire d'en dire plus.
Moins 40.
C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit.
Bon, et on m'appelle Mamie
et Mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, Mamie Tromblon, hein.
Il connaît pas Raoul, ce mec.
Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure.
Tu m'aides pas là?
Non, pas là, non.
Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, on parle d'un monument du cinéma qui n'a pas forcément été un succès à sa sortie. Un film avec Al Pacino, un film de Brian De Palma, vous aurez reconnu Scarface. Allez, c'est parti, on y va. Alors, Scarface, ou Le Balafré au Québec, ou Scarface dans le reste du monde entier, est un film de gangster américain réalisé par Brian De Palma et sorti en 1983. Scénarisé par Oliver Stone, le film est un remake de celui du même nom de Howard Hawks, sorti en 1932. Alors que ce dernier traité de la mafia américaine et s'inspirait de la vie d'Al Capone, le scénario est ici transposé à travers l'histoire d'un petit malfrat cubain, Tony Montana, incarné par notre cher Al Pacino, débarquant sans rien à Miami au début des années 80 avant de devenir un important trafiquant de drogue. Les autres acteurs principaux comprennent Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Marie-Elisabeth Mastrantonio et Robert Loggia. Quand Al Pacino commence à s'intéresser à un remake de la version de 1932, il s'associe avec le producteur Martin Bergman pour développer ce projet. Le réalisateur, Sidney Lumet, est initialement embauché pour diriger le film. Mais il est remplacé par Brian De Palma, qui engage Oliver Stone pour écrire le scénario. Et le tournage a lieu de novembre 82 à mai 1983 à Louisville dans le Kentucky et à Los Angeles en Californie. La bande originale du film a été composée par l'artiste Giorgio Moroder. Scarface a remporté 65,9 millions de dollars de recettes mondiales au box-office. C'était honorable pour l'époque. Sa réception critique initiale a été cependant négative du fait de la forte présence de violence, de langage cru et des protagonistes et de leur consommation de stupéfiants. Certains expatriés cubains à Miami se sont même opposés au film car ils estimaient être décrits comme des criminels et des trafiquants de drogue. Dans les années qui ont suivi, toutefois, les critiques ont revu leur position et le film est désormais considéré comme l'un des meilleurs du genre policier. Des scénaristes et réalisateurs tels que Martin Scorsese en ont fait l'éloge, qui a été largement référencé dans la culture pop, en particulier dans le rap et le hip-hop, par le biais du personnage de Tony Montana, mais aussi dans les comics, les émissions de télévision et les jeux vidéo. Le film est depuis considéré comme un film culte et son héros, Tony Montana, a obtenu le statut d'icône. C'est un film produit par la Universal Pictures. Il dure 170 minutes quand même. Il y a beaucoup à dire. C'est pour ça qu'on va résumer l'histoire en détaillé. En 1980, au cours de l'exode de Marielle, les opposants au régime communiste sur l'île de Cuba sont expulsés par bateau vers les États-Unis après avoir été dépouillés par le dictateur Fidel Castro. Quand le président américain Jimmy Carter leur offre l'asile politique, mais le leader Maximo profite également de cette occasion pour se débarrasser de ses prisonniers de droit commun qui garnissent ses prisons, dont on estime qu'ils étaient 25 000 parmi les 125 000 exilés cubains partant vers les États-Unis. Parmi ces réfugiés figure Antonio Montana, dit Tony Montana, accompagné de son ami Manolo Manny Ribera, deux petits malfrats cubains issus de la rue. Libérés de prison, les deux compères profitent de l'occasion et font le voyage avec les autres réfugiés vers les États-Unis. Ils débarquent finalement à Miami. À leur arrivée sur le sol américain, les réfugiés sont regroupés dans un camp de transit dans l'attente de savoir s'ils vont être acceptés par leur nouveau pays. Manny trouve alors le moyen, grâce à ses contacts avec un caïd de Miami, d'obtenir pour lui et Tony une carte verte américaine, la fameuse green card, s'ils acceptent d'effectuer un contrat d'assassinat. Ils doivent liquider un opposant cubain, lui aussi réfugié dans le camp. Un certain Rebenga. Tony et Manny, aidés de leur camarade Angel, se chargent du contrat et obtiennent, peu après, leur visa d'entrée américain. Grâce à leur carte verte, les deux amis trouvent un petit boulot dans une gargote minable de la ville. Mais travailler pour quelques malheureux dollars ne correspond pas à l'idée que Tony se fait du rêve américain. C'est alors qu'Omar Suarez, le bras droit du caïd Frank Lopez, celui qui leur avait donné le contrat d'assassinat, leur offre 500 dollars pour décharger une cargaison de marijuana d'un bateau. Mais, devant le refus de Tony, qui affirme que son offre est insuffisante, Suarez propose aux deux hommes 5000 dollars pour leur faire leur preuve. Ils devront aller dans un hôtel et acheter pour Lopez de la cocaïne à des trafiquants de drogue colombiens, des nouveaux venus. Tony accepte, mais Suarez avertit les deux hommes que s'ils ne reviennent pas avec la drogue, ils seront dans de beaux draps. Tony et Manny, accompagnés de leurs complices cubains, se rendent au rendez-vous et commencent la transaction avec les trafiquants colombiens. Mais les choses tournent mal, Tony est capturé par les trafiquants. Peu après, Angel, un de ses compagnons, est assassiné à la tronçonneuse dans la baignoire de la chambre. Une scène mythique, pour intimider Tony afin qu'il donne l'argent aux Colombiens. Et lui aussi est sur le point de subir le même sort. Mais, grâce à l'intervention de Manny, qui surgit dans la pièce et tire sur les trafiquants, Tony se libère et tue le revendeur colombien, l'exécutant en pleine rue après l'avoir rattrapé. Puis, avec ses complices, il s'enfuit avec l'argent ainsi que le stock de drogue de Colombiens. Suspectant Suarez de vouloir les doubler, Tony insiste pour livrer personnellement avec Manny la drogue et l'argent à Lopez. Lors de leur rencontre avec le caïd, Tony est immédiatement attiré par la petite amie de Frank Lopez, une ravissante américaine nommée Elvira Hancock. De son côté, Lopez, impressionné par l'efficacité et le sang-froid des deux hommes, les recrute sur le champ en leur promettant la richesse s'ils sont loyaux avec lui. Plus tard, il explique à son bras droit Omar qu'il lui fallait à tout prix recruter des hommes tels que Tony, prêt à se faire tuer pour lui dès lors que leur loyauté est acquise. 3 mois plus tard, Tony rend visite à sa mère, Georgina. Georgina, qui vit elle aussi à Miami. Ayant émigré depuis 5 années avec sa plus jeune fille, Gina, la petite sœur de Tony. À son arrivée, Gina est enchantée de revoir son grand frère, ne l'ayant pas revu depuis des années, quand il était emprisonné à Cuba. Mais sa mère lui a fait un moins bon accueil, lui reprochant sa vie de criminel, son allure de gangster et son absence. Elle refuse l'argent que Tony lui met sur la table, puis le jette à la porte de chez elle. Malgré sa mère, Gina rejoint Tony dehors et lui dit de pardonner son attitude, affirmant à son frère que pour elle, rien n'a changé, car ils ont le même sang. Quand Tony retourne à sa voiture, Manny lui fait des commentaires flatteurs sur la beauté de Gina, mais qui mettent Tony complètement hors de lui. D'un air menaçant, il défend à Manny de tenter de la voir, lui affirmant qu'elle n'est pas pour lui. Peu après, Frank Lopez envoie Tony escorter Omar Suarez en Bolivie lors de sa rencontre avec un important producteur de cocaïne du pays, Alejandro Sosa. Lors de sa rencontre dans la luxueuse propriété de Sosa, et alors qu'il n'est officiellement que le garde du corps d'Omar, Tommy prend des initiatives et négocie une importante transaction de drogue avec le trafiquant bolivien, sans avoir obtenu au préalable l'accord de Frank et en court-circuitant Suarez, ce dernier tentant vainement de le remettre à sa place. C'est alors que Sosa conseille à Suarez de retourner à Miami consulter son chef, puis lui propose de rejoindre l'aéroport avec son propre hélicoptère afin d'aller plus vite, gardant Tony avec lui. Mais peu après son départ, Sosa affirme à Tony que Suarez est un informateur de la police. Un de ses complices l'a reconnu à New York il y a quelques années. Tony est témoin de son assassinat, pendu depuis l'hélicoptère de Sosa, après avoir été passé à tabac. Le trafiquant, en se demandant s'il peut faire confiance à l'organisation de Frank Lopez, demande à Tony de lui prouver qu'il n'est pas lui aussi un informateur. Tony, avec aplomb, lui certifie qu'il n'a jamais fait confiance à Suarez, mais que Frank est réglo. Acceptant ses explications, Sosa conclut la vente de drogue avec Tony, mais le met en garde de ne jamais chercher à le doubler. Tony acquiesce. De retour à Miami, Frank Lopez réagit avec fureur quand Tony lui annonce la mort de son bras droit Omar, ainsi que la transaction qu'il a passée sans son accord avec Sosa. Les deux hommes, ayant des points de vue divergents sur l'expansion de leur activité criminelle, commencent à s'éloigner l'un de l'autre. Tony entame alors son indépendance en vue de monter sa propre organisation. Dans le même temps, il informe Elvira de son intérêt pour elle, lui demandant de faire un choix entre lui et Frank. Un soir, au Babylon Club, le nightclub de Miami où les hommes de Lopez ont leurs habitudes, Tony est accosté par le policier Mel Bernstein, un inspecteur de police des stupes de Miami, corrompu par Lopez, qui lui demande de l'argent en contrepartie d'une protection policière et d'informations sur ses concurrents. Le même soir, Tony met en colère Frank en faisant ouvertement des avances à Elvira. Peu après, il remarque la présence dans la boîte de nuit de sa sœur Gina et ses manières lascives avec un homme. Il la suit quand celle-ci entre dans les toilettes avec son cavalier. Tony la gifle, en colère devant son attitude. À la suite de cet incident, Manny ramène Gina chez elle, lui expliquant que son frère s'inquiète pour elle, car il la voit comme quelqu'un d'honnête et de pur. Un peu plus tard, au nightclub, Tony échappe de peu à une tentative d'assassinat perpétré par deux hommes inconnus. Il est blessé, mais parvient à s'échapper. Pendant la nuit, accompagné de Manny et de leur ami Chichi, Tony se rend au bureau de Frank, convaincu que son patron est le commanditaire de l'assassinat. Il le trouve là avec Mel Bernstein. Sous la menace de son arme, Frank confesse à Tony son implication dans la tentative d'assassinat, mais le supplie de l'épargner, lui promettant une importante somme d'argent et affirmant qu'il va disparaître de la circulation. Mais Tony le fait tuer par Manny, puis s'occupe de Bernstein avant de recruter au Débotté l'ancien garde du corps de Lopez, qui craignait lui aussi d'être tué. Devenu le chef de sa nouvelle organisation, Tony se marie avec Elvira et devient le distributeur principal de la cocaïne de Sosa aux États-Unis. Il accumule la richesse et développe son empire criminel, vivant dans une vaste et somptueuse propriété privée, protégée en permanence par des gardes et des caméras de surveillance. Mais en 1983, sous l'impulsion de sa consommation excessive de drogue, Tony commence à commettre des erreurs. Quand son banquier véreux habituel exige un pourcentage plus élevé pour blanchir ses revenus en argent liquide issu de son trafic, Tony, sur le conseil de Manny, cherche un nouvel intermédiaire. Il tombe alors dans un piège monté par les agents fédéraux du fisc qui l'arrêtent et l'inculpe pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Mais Sosa intervient et offre à Tony d'utiliser ses relations aux États-Unis pour lui éviter la prison et de ne payer en définitive qu'une importante amende. En échange, Tony doit accepter d'assister l'un des hommes de main de Sosa, Alberto, qui doit assassiner un journaliste avant que celui-ci ne témoigne au quartier général de l'ONU à New York sur les liens entre Sosa, son cartel et les officiels boliviens. Alors que Tony, Manny et Elvira sont au restaurant, Tony, sous le coup de la cocaïne et d'excès de boissons, se met à reprocher à Manny sa récente arrestation, car il avait suivi son conseil de s'adresser à l'usurier Cedelbaum à la place de son banquier habituel. Puis, sans gêne, il dévoile à son ami que son épouse Elvira est infertile à cause, dit-il, de sa trop grande consommation de drogue. Furieuse, Elvira lui jette son verre de vin au visage et quitte les lieux, disant à Tony que leur relation est désormais terminée. Peu après, Tony, accompagné de ses gardes du corps, quitte le restaurant d'une démarche vacillante, dévisageant l'assistance, médusé tout en la raillant, leur disant de laisser la place aux mauvais garçons tels que lui. La semaine suivante, Tony se rend à New York avec des complices afin d'escorter Alberto, le bras droit de Sosa, lors de l'assassinat du journaliste. Posté devant l'hôtel de leur victime, il voit Alberto placer une bombe radiocommandée sous la voiture de leur cible, et le lendemain, le groupe suit la voiture pour la faire exploser devant le siège de l'ONU, mais au dernier moment, en se rendant compte que leur cible est accompagnée de sa femme et de ses enfants, Tony dit à Alberto d'annuler l'opération, ne pouvant se résoudre à tuer des personnes innocentes. Mais Alberto refuse et insiste pour continuer. Tony, devenant fou furieux, le tue juste avant qu'il n'appuie sur le bouton de déclenchement de la bombe, puis accable son cadavre de sarcasme. De retour à Miami, Tony est contacté au téléphone par Sosa qui, furieux, met fin à leur partenariat et promet de se venger. Tony, répondant à ses menaces, lui déclare également la guerre. Peu après, et à la demande de sa mère inquiète, Tony part à la recherche de Manny et Gina, les deux ayant disparu depuis plusieurs jours. Grâce à l'adresse donnée par sa mère, Tony les retrouve dans une luxueuse maison inconnue de Miami. Se présentant à l'entrée de la maison, Tony voit arriver Manny lui ouvrir. Il voit peu après Gina à l'étage en petite tenue qui lui sourit. Comprenant que Manny est avec Gina, Tony, fou de colère, abat Manny d'un tir de pistolet. Mais Gina, dévastée par le chagrin, accourt vers le cadavre de Manny et explique à Tony qu'ils se sont mariés la veille et que les deux avaient prévu de lui faire la surprise. Tony, en état de choc, est ramené à sa propriété. Il arrive à son bureau, puis plonge la tête la première dans un grand sac de cocaïne, restant prostré un long moment en pensant à Manny. Mais quelque temps après, les hommes de Sosa envahissent la propriété et tuent silencieusement les gardes. Pendant ce temps, Gina entre dans le bureau de Tony et, l'air étrange, elle avait reçu un calmant auparavant, accuse son frère de vouloir lui, pour lui seul. Elle pointe ensuite un pistolet sur lui et lui tire dessus. Au même moment, un des hommes de Sosa surgit du balcon derrière eux et tue Gina. Sortant brusquement de sa torpeur, Tony tue l'assaillant, puis, hébété et à moitié délirant, il reste un long moment à contempler le cadavre de sa sœur, tout en lui parlant. Mais après avoir remarqué les assaillants sur les moniteurs des caméras de surveillance de son bureau, il s'arme d'un fusil d'assaut M16, pourvu d'un lance-grenade, et invective ses ennemis. Ceux-ci s'étant regroupés devant la porte de son bureau, prêts à l'assaillir. Après avoir fait sauter la porte de son bureau avec le lance-grenade, tuant plusieurs de ses ennemis, Tony arrive sur le balcon attenant et mitraille les hommes de Sosa qui ripostent. Touché de plusieurs balles, mais rendu insensible grâce à la cocaïne et à l'adrénaline, Tony continue à le défier jusqu'à ce qu'il soit achevé d'un tir dans le dos par des hommes de Sosa. Son corps bascule alors du balcon et finit en contrebas dans une fontaine, celle-ci étant décorée d'une statue qui porte l'inscription « The world is yours, le monde est à vous », la devise de Tony Montana. La scène finale s'achève avec l'apparition d'un intertitre dédiant le film à Howard Hawks et Ben Hecht, respectivement réalisateur et scénariste du Scarface original. Et voilà l'histoire incroyable de ce film avec un final complètement dingue. À voir et à revoir. Donc on a dit que c'est réalisé par Brian De Palma. Au scénario, on a le célèbre Oliver Stone qui est aussi un très bon réalisateur. D'après le scénario du film original de 1932 Scarface, écrit par Howard Hawks et Ben Hecht, et adapté du roman d'Armitage Trail lui-même. On a dit que la musique était de Giorgio Moroder. Le budget original était de 25 millions de dollars. Donc le film est rentré dans ses frais, en tout cas pour son exploitation au cinéma, puisqu'il a rapporté plus de 65 millions dans le monde entier. C'est tourné en couleur 35 mm, 2/35, en son 4 track, 4 track, stéréo. Les langues parlées dans le film sont l'anglais et l'espagnol. On l'a dit, il dure 170 minutes. Il est sorti en avant-première le 1er décembre 1983 à New York et en sortie nationale le 9 décembre 1983 et en France le 7 mars 1984. Il est classé R aux États-Unis, interdit au moins de 13 ans à sa sortie en France, puis interdit au moins de 12 ans depuis la réforme de 1990. Al Pacino y joue Antonio Tony Montana. Steven Bauer joue Manolo Manny Ribera. Michelle Pfeiffer y joue Elvira Hancock. Marie-Elisabeth Mastrantonio y joue Gina Montana. Robert Loggia, Frank Lopez. Myriam Cullen, Georgina, la mère de Tony et Gina. Paul Chénard, il joue Alejandro Sosa. On a Marc Margolis, qui joue Alberto, un homme de main de Sosa et son bras droit. Déjà, Margolis était dans le gang dès 1983. Voilà ce qu'on a comme acteur à peu près connu. Scarface de Brian De Palma est un remake du film du même nom de 1932 qui relate l'histoire d'un immigré bâtissant à Chicago un empire sur le trafic d'alcool pendant la Prohibition. L'histoire est réactualisée en changeant l'origine du héros et les trafics auxquels il est lié. Antonio Montana, en référence à Joe Montana, un joueur de football américain dont Oliver Stone est fan, se fait néanmoins appeler Tony, comme le héros de 1932 d'origine italienne. Le film de 1932 décrit de manière indirecte Al Capone, qui était autrefois surnommé Scarface. À l'époque où il écrivit le film, Oliver Stone luttait contre une dépendance à l'héroïne. Sidney Lumet était pressenti pour réaliser le film. C'est lui qui suggéra l'idée des personnages cubains et l'exode de Marielle dans l'histoire. Mais il se désista finalement en raison du ton très violent du projet. Il est donc remplacé par Brian De Palma, pour qui quitte pour l'occasion le film Flashdance, après avoir aimé le script de Scarface. Moi aussi, entre choisir entre les deux, j'aurais pris Scarface. J'ai rien contre Flashdance, hein. D'ailleurs, je le ferai en podcast. Je ne l'ai pas fait, ce film. À foire. Pour les rôles, après le refus de Robert De Niro, de Sylvester Stallone, qui devait devenir le rôle de Tony Montana, ne put le faire à cause d'un tournage de Staying Alive. Le rôle est ensuite confié par la suite à Al Pacino. John Travolta était pressenti pour incarner Manny Rivera, mais le rôle est finalement confié à Steven Bauer, alors relativement inconnu à l'époque. Les producteurs étaient convaincus qu'il était bon pour le rôle, avis fondé sur une audition frappante, ainsi que sur ses origines cubaines. Le rôle principal féminin, celui d'Elvira Hancock, est proposé à Rosanna Arquette, Jennifer Jason Leigh, Melanie Griffith, Kim Basinger, Kathleen Turner, Jodie Foster, mais toutes le déclinent. Brooke Shields se voit également offrir ce rôle, mais sa mère refuse. D'autres actrices, Gina Davis, Carrie Fisher, Kelly McGillis et Sharon Stone, ont auditionné pour incarner Elvira. Kay Lentz et Christine McNichol auraient voulu l'incarner, mais Brian De Palma était contre. Le choix se porte sur la jeune actrice Michelle Pfeiffer, qui venait d'obtenir des commentaires favorables pour sa prestation dans Grease 2, malgré l'échec critique et commercial du film. Au départ, Brian De Palma refuse d'auditionner Michelle Pfeiffer après l'avoir vue dans Grease 2, mais le producteur le pousse à lui laisser sa chance. Bien qu'intimidée par Al Pacino durant la répétition d'une scène, elle obtient le rôle. Al Pacino et Michelle Pfeiffer se retrouveront en 1991 pour le drame sentimental Frankie et Johnny. F. Murray Abraham est engagé pour le rôle d'Omar Suarez, lui permettant ainsi de sortir d'une longue et difficile période de chômage. Le producteur Martin Bregman révèle dans son livre Scarface Nation que Glenn Close avait été le premier choix pour le rôle d'Elvira. Mais il pensait qu'il était seulement la moitié d'une pute. Bien que certains personnages principaux ou secondaires aient des origines cubaines, seul Steven Bauer est né à Cuba. Tandis qu'Angel Salazar, Chichi, est américano-cubain. L'action du film devait se dérouler initialement à Chicago, comme dans le film original, mais l'équipe n'a pas pu le faire pour des raisons de moyens. L'histoire est donc transposée à Miami. Pourtant, ce choix ne fait pas l'unanimité, notamment au sein de l'Office du tourisme, craignant qu'il n'offre à la ville une réputation de haut lieu de la criminalité cubaine, faisant ainsi fuir les touristes. Le tournage, on l'a dit, débute le 29 novembre 1982 et se termine près de 8 mois plus tard, le 15 juillet 1983. Se déroule à Miami, mais également à Miami Beach, notamment au 728 Ocean Drive, là où est tournée la scène de la rencontre avec des trafiquants à l'hôtel. À Atlantis Condo, sur Brickell Avenue. Pour la scène de la piscine de la maison de Frank Lopez, à South Beach, quartier de Miami Beach, et au Fontainebleau Miami Beach, qui s'étend à Los Angeles, Montecito et Torrance, la scène de la maison de la mère de Tony, en Californie et à New York. Une partie du film est tournée dans les studios Universal, à Universal City, en Californie. Steven Spielberg est venu donner un coup de main à son ami Brian De Palma pour la réalisation de la scène finale. Alors qu'il était sur le point de jouer une scène avec son personnage, F. Murray Abraham reçoit le scénario d'Amadeus. Pensant y tenir un autre second rôle, l'acteur accepte de s'y engager lorsque plus tard il apprend qu'il jouera le rôle principal d'Antonio Salieri. Et oui, le méchant de l'histoire d'Amadeus. Je pense que je l'ai fait, Amadeus. Au bout de 500 épisodes, je ne me souviens pas tous ceux que j'ai fait. Mais je crois que j'ai fait Amadeus. Vous pouvez chercher dans mon podcast si jamais je l'ai fait. Voilà. Scarface échappe de peu au classement X, interdit de moins de 18 ans aux États-Unis, car la scène de la tronçonneuse est jugée trop violente pour la Motion Pictures Association of America. L'acteur Brian De Palma se mobilise alors et finit par obtenir un classement R, c'est-à-dire interdit de moins de 17 ans non accompagné, hein, vous le savez maintenant. Le 1er décembre 1983, lors de sa présentation en avant-première du film, dans un cinéma de New York, celui-ci rencontre des réactions mitigées. Les acteurs Al Pacino et Stephen Bauer, présents lors de cette avant-première, sont rejoints entre autres par leurs collègues Burt et Diane Lane, Melanie Griffiths, Raquel Welch, John Collins, accompagné de son petit ami Peter Holm et Eddie Murphy. Selon l'émission DVD TV, Much More Movie, diffusée sur AMC après cette avant-première, la chanteuse Cher a affirmé avoir adoré le film, au contraire de l'actrice Lucille Ball, qui, venue en famille, l'a détestée en raison du langage et de sa violence, tandis que l'acteur Dustin Hoffman a déclaré s'être endormi. Par ailleurs, les autres acteurs, Ken Von Gutt et John Irving, auraient quitté la salle de dégoût à cause de la scène de la tronçonneuse. Au milieu du film, le réalisateur Martin Scorsese s'est tourné vers Steven Bauer et lui a dit « Les gars, vous êtes superbes, mais il faut vous préparer parce qu'ils vont le détester Hollywood. » Il était fort ce matin, Scorsese, il avait déjà compris. Hein. Donc l'accueil critique. Initialement, le film rencontre des commentaires très négatifs de la part de la critique professionnelle, ce qui vaut à Brian De Palma une nomination au Razzie Award 1984 pour le prix du pire réalisateur. Le film attise notamment la controverse en raison de son niveau de langage et de sa violence. sur le DVD de l'édition collector de Scarface, le producteur Martin Bregman déclare que le seul critique Vincent Canby du New York Times l'avait bien accueilli. Cependant, en 1983, notre cher Roger Ebert du Chicago Sun-Times attribue au film une note de 4 sur 4 étoiles. Quelques années plus tard, il l'ajoute à sa liste de ses plus grands films. Et Roger Ebert, j'en ai parlé souvent dans mes podcasts, si vous avez l'habitude de m'écouter, c'est le critique de cinéma américain. Voilà. Au fil des années, toutefois, la réaction d'ensemble des critiques de cinéma change. Les commentaires négatifs sur Scarface évoluant de manière positive, voire favorable. Sur Rotten Tomatoes, le film obtient 82% sur la base de 71 critiques collectées, une note moyenne de 7,5 sur 10. Le consensus indique le réalisateur Brian De Palma et la star Al Pacino vont jusque dans la limite de cette épopée de gangsters stylisée, ultra-violente et éminemment propice à la citation qui trace une mince ligne blanche entre le drame moral et l'excès de célébration. Sur Metacritic, le film obtient une note moyenne pondérée de 65% sur la base de 9 critiques collectées. Le consensus indique avis généralement favorable. Le film est classé à la 105e position du top 250 des meilleurs films de tous les temps du site Internet Movie Database, avec une note moyenne de 8,3 sur 10. Le 9 décembre 1983, Scarface sort aux États-Unis dans 996 salles et prend la deuxième place du box-office lors de son premier week-end d'exploitation, avec une recette de $4,597,000, derrière le film Le Retour de l'inspecteur Harry, sorti le même jour. Le long métrage est diffusé dans 1008 salles la semaine suivante. Il rapporte plus de $39 millions en 12 semaines d'exploitation, terminant sa carrière à $44,668,000 de recettes totales sur le territoire américain. À l'étranger, il récolte plus de $20,476,000. Pour un total, comme on a dit tout à l'heure, de $65,144,000. En France, il fera 799 000 entrées. Il sort le 7 mars 1984 en France et fait un démarrage correct avec 236 000 entrées lors de sa première semaine d'exploitation. C'est énorme par rapport au total. Pour un total de 237 000 entrées cumulées avec les avant-premières. Le film connaît une décélération de sa fréquence d'exploitation à partir de la semaine suivante, chutant en 7e position avec la période, avec 152 000 entrées pour un cumul de 389 000 depuis sa sortie. Scarface quitte le top 30 après la semaine du 18 avril 1984, où il avait déjà enregistré 604 239 entrées. Bien que son score en salle soit correct, sans pour avoir été un énorme succès populaire, Scarface va acquérir au fil des années le fameux statut de film culte grâce à son succès dans le marché de la location vidéo, avec l'exploitation initiale et de nombreuses reprises, Scarface approche les 800 000 entrées, le positionnant à la 60e place du box-office annuel de 1984. En juin 2008, l'American Film Institute classe Scarface à la 10e place dans la film des catégories films de gangsters du classement AFI 10 Top 10, la liste des 10 meilleurs films américains dans 10 catégories cinématographiques différentes. La ligne de dialogue, c'est « Hello to my little friend » dite par Tony Montana au début de la scène finale de la fusillade, est classée à la 61e place de l'AFI 100 Movie Quote, la liste des 100 meilleures répliques de cinéma américain. Le magazine Entertainment Weekly a classé le film à la 8e place de sa liste des 50 meilleurs films cultes. Et le magazine Empire, la 284e place de sa liste des 500 meilleurs films de tous les temps. En 2010, la chaîne VH1 le classe à la 5e place de sa liste des 100 plus grands films de tous les temps. Scarface est l'un des premiers films à faire l'usage du juron fuck. Il est utilisé 207 fois dans le film. À titre de comparaison, 265 fois dans Pulp Fiction. Scarface est devenu peu à peu le film le plus populaire des banlieues américaines et françaises. Le personnage de Tony Montana est devenu culte. Et beaucoup de jeunes se retrouvent dans le destin de cet immigré cubain. Dans le film Génération Scarface, le journaliste Nicolas Lécoux explique « Je suis né au Maroc, j'ai grandi dans une banlieue des Yvelines et comme tous ceux qui m'entouraient, j'ai trouvé des valeurs dans ce film qui me correspondaient. La volonté de s'en sortir pour les uns, des rêves de puissance pour les autres, Tony Montana inspire ces jeunes car il apparaît pour eux comme un bandit d'honneur, qui lui-même, s'il est un assassin, est une sorte de Robin des Bois du ghetto. Quelques références dans le cinéma, dans Tueur Né, que j'ai fait en podcast, je vous conseille d'écouter l'épisode, en 1994 d'Oliver Stone, les personnages de Mickey et Mallory Knox font une halte dans un motel. Sur le téléviseur allumé dans la chambre, on voit une scène du film Scarface, la scène de la tronçonneuse. Dans L'Appât de 1995 de Bertrand Tavernier, les deux personnages masculins du film, Bruno Puzzulu et Olivier Sitruk, vouent une vénération à la Scarface. Ils le revoient souvent en vidéo, ce qui fâche le personnage de Nathalie, Marie Gillin, qui préférerait choisir un autre programme. Lors de la diffusion de la vidéo de Scarface, Nathalie imite une réplique de Tony Montana. « Je suis, comme vous dites, paranoïaque. » La fin du film Taxi 4 en 2007, film oubliable de Gérard Krosvik, parodie la fusillade conclusion Scarface. Dans cette scène, le criminel belge Albert Van der Bosch reprend la réplique de Tony. On fait la guerre et ouvre le feu dans son manoir sur les forces de l'ordre depuis le premier étage surplombant un bassin comme dans Scarface avant que le commissaire Gibert, qui a consommé à son insu de la cocaïne, ne tire sur tout le monde. La maison est d'ailleurs presque une copie de celle de Tony dans Scarface. En passant pécho, 2021, de Julien Royal, plusieurs scènes du film, parodient Scarface, notamment les scènes avec la musique de Push It to the Limit. Dans ma série de cœur Breaking Bad, saison 5, épisode 3, Nouveau Labo, le personnage de Walter White est vu regarder la fin du film Scarface avec son fils Walter Jr. Un clin d'œil au film est également présent dans l'épisode « Comme un chien enragé » quand le personnage de Saul Goodman porte un costume blanc et rouge similaire à celui de Tony Montana et quand à un moment il regarde son visage blessé dans un miroir se demandant si la blessure va laisser une cicatrice. Le créateur de la série Breaking Bad, c'est Vince Gilligan, avait cité le film comme une métaphore expliquant l'évolution de son personnage principal, prendre Mitchell Chips et le transformer en Scarface. Par ailleurs, deux des acteurs du film ont également participé à la série, Stephen Bauer, que j'ai pas reconnu du tout dans le film, dans la série, et Marc Margolis, que j'avais reconnu. Mais c'est quand j'ai fait les recherches que j'ai retrouvé ça. Dans la série Narcos Mexico, saison 1, épisode 3, El Padrino, un associé du personnage de Rafa Quintero lui propose de regarder le film Scarface. Rafa porte par la suite, lors d'une réception, le même costume que celui de Tony Montana, la série insinuant son obsession pour son personnage. Il y a eu des jeux vidéo Scarface, il y a eu des hommages dans Grand Theft Auto 3 en 2001, qui diffuse la bande originale du film. Certains passants reprennent des citations du film. Il y a même Robert Loggia, un des acteurs qui joue Frank Lopez, qui donne sa voix au personnage de Ray Machowski dans le jeu. Dans Grand GTA Vice City en 2002, les références au film sont nombreuses, le jeu vidéo ressemblant d'ailleurs beaucoup au film par rapport à son scénario. Les deux histoires se déroulant à la même époque, en 1980, et au même endroit. Vice City, vous le savez, étant une parodie de la ville de Miami. On a une référence dans le jeu Red Dead Redemption, dans le jeu Far Cry 3, le jeu Payday 2. Bref, il y a de la musique dans les rappeurs français comme Booba, PNL, Django, DKZ, Stomy Bugsy, Arsenic, IAM, Rof, Funky Family, font souvent référence à Scarface. Et utilise parfois des répliques du film ou des samples de la bande originale. Le rappeur américain Rick Ross a repris un sample du Scarface. Le groupe de rap Mobb Deep a repris aussi un sample. Black Mafia de Lunatic avec Booba et Cosmo Puccino fait allusion au film dans un de ses morceaux. Nekfeu, PNL, Naps, bref, voilà. Il y a même eu une bande dessinée en novembre 2008. Voilà. En 2010, l'idée d'un Scarface 2 est évoquée par Oliver Stone. En septembre 2011, Universal lance l'idée de faire un remake de Scarface en utilisant le film de 83 et celui de 1932. En 2014, le réalisateur chilien Pablo Larraín négocie la réalisation d'un remake de Scarface qui raconterait les péripéties d'un truand mexicain aux États-Unis. Pardon. En 2020, un nouveau projet de remake de Scarface est lancé par les studios Universal Pictures, avec cette fois une action devant se dérouler à Los Angeles. Les frères Cohen sont envisagés au scénario, le cinéaste Luca Guadagnino à la réalisation et l'acteur Michael B. Jordan pour le rôle-titre. Et dans la littérature, en 2014, une suite alternative, Scarface 2 Vengeance aveugle, se déroulant dans les années 2010, avec pour protagoniste le neveu de Tony Montana, Lorenzo Gibson, alias Enzo Montana, et écrit par l'auteur français Sami Baruch, publié aux éditions Edilivre. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce long épisode. Scarface, c'est un monument du cinéma, donc il méritait qu'on entre bien en détail. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je l'ai fait en une partie, je le mettrai sûrement dans les bonus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Supportez-moi sur mes plateformes, s'il vous plaît, pour faire continuer le podcast. Parce que c'est moi qui paye tout et c'est compliqué. Évidemment, c'est à votre bon cœur, messieurs, dames. Je vous dis merci, à très vite pour un nouvel épisode. Et ciao, ciao. Histoire d'en dire plus.
Moins 40.
Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit...
Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait trompeler, mamie Tromblon.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec.
Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure.
Tu m'aides pas là?
Non, pas là, non.